Nous lisons dans la lettre aux Philippiens au chapitre 4, les versets 4 à 7. Réjouissez-vous dans le Seigneur en tout temps. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre bonté soit reconnue par tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais en toute occasion, par la prière et la supplication, accompagnées d'actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus au Foyer de l'âme. Que vous soyez pour la première fois ici, ou pour la deuxième fois, ou pour X fois, que vous soyez habitués. Aujourd'hui, vous l'avez peut-être remarqué, nous allons faire la scène, puisque nous sommes le jour de la Réformation. Nous allons donc faire ce culte dans la joie. Je vous annonce que les chants qui sont annoncés ici seront dans le recueil marron et les spontanés seront dans le recueil bleu à partir de la page 21. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu qui nous rassemble et de Jésus-Christ qui nous aime et nous conduit. Nous prions. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Le Seigneur est mon repos, sur de frais herbages, il me fait coucher. Le Seigneur est ma consolation, il me ranime. Le Seigneur est ma paix, il me conduit par des bons sentiers. Le Seigneur est ma confiance, même si je marche dans un ravin d'ombre et de mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Le Seigneur est mon soutien, ton bâton, ton appui, voilà qui me rassure. Le Seigneur est mon ami, devant moi tu dresses une table face à mes adversaires. Le Seigneur est ma victoire, tu parfumes d'huile ma tête et ma coupe est enivrante. Le Seigneur est ma joie, oui, bonheur et fidélité me poursuivent tous les jours de ma vie. Le Seigneur est mon espérance, Seigneur, je reviendrai dans ta maison aussi longtemps que je vivrai. Amen. Nous chantons dans le recueil marron le cantique 252 en entier.
Thank you.
paroisse. Père, nous écoutons la parole que tu nous as donnée. Quel est le premier de tous les commandements ? Jésus répondit : Le premier c'est « Écoute, Israël ». Le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence et de toute ta force. Le second c'est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Amen. Seigneur, nous voulons te dire notre peur et notre angoisse devant le mal et la souffrance du monde. Te dire aussi notre honte et notre confusion quand nos propres fautes prolongent et augmentent cette souffrance. Pardonne-nous, Seigneur, d'agir si naturellement comme des égoïstes et de ne pas aimer notre prochain avec l'ardeur, le respect et l'attention que nous disait Jésus. Pardonne-nous de t'aimer si maladroitement, d'attendre toujours tes services au lieu d'être à ton service. Pardonne-nous d'oublier que notre vrai bonheur est de t'aimer et de te suivre. Accorde-nous ton pardon, qu'il soit notre paix, notre joie et notre force. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Des jours viennent, dit Dieu, où je conclurai avec la communauté de mon peuple une alliance nouvelle. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un souffle intact. J'ôterai le cœur pétrifié qui est dans votre poitrine et vous donnerai un cœur vif. Je déposerai mon inspiration au fond de vous-même et j'insufflerai en vous mon esprit. En effet, je pardonne vos fautes, votre péché, je ne m'en souviens plus. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Amen. Avant de lire les Écritures, nous prions afin qu'elle devienne pour nous une parole de vie. Père, tu n'ignores rien de nos réticences, ni de nos résistances devant ta parole. Tu sais combien nous nous esquivons lorsque ton évangile se fait trop précis, combien nous oublions lorsqu'il se fait dérangeant. Et pourtant, nous revoici ce matin à l'écoute de ce que nous disent les Écritures. C'est pourquoi nous te prions que ton esprit nous accorde un cœur ouvert et une intelligence accueillante à ton évangile. Derrière les mots que nous entendons, donne-nous de discerner ta parole de vie, ta parole pour nos vies. Amen. Aujourd'hui, nous ne lirons qu'un seul texte. Nous lisons dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5, versets 1 à 11. Étant donc justifiés en vertu de la foi, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est par son entremise que nous avons eu, par la foi, accès à cette grâce dans laquelle nous nous tenons et que nous mettons notre fierté dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous mettons notre fierté dans les détresses, sachant que la détresse produit l'endurance, l'endurance une fidélité éprouvée, et une fidélité éprouvée, l'espérance. Or, l'espérance ne rend pas honteux, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par l'Esprit Saint qui nous a été donné. En effet, lorsque nous étions encore sans force, le Christ, en son temps, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être quelqu'un aurait-il le courage de mourir pour un homme bon. Or voici comment Dieu, lui, met en évidence son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. À plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous donc sauvés de la colère par son entremise ? Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu au moyen de la mort de son Fils, à bien plus forte raison, une fois réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Bien plus, nous mettons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Père, ta parole est puissance pour nos vies. Donne-nous d'ouvrir nos cœurs et de voir la lumière que tu nous donnes et qui guide nos chemins. Amen. Nous chantons le cantique 255 en entier. Je vous invite à vous lever.
Thank you.
Je ne sais pas vous, mais il me semble que Paul peut faire peur à première vue. Car il utilise un vocabulaire qui n'est pas toujours évident à intégrer dans nos vies. Cela dit, je crois fermement que toute la richesse du texte biblique, c'est aussi de nous déplacer et de nous offrir l'occasion de voir les choses d'un angle nouveau. Alors, en ce jour de la Réformation, prenons le temps de nous laisser une nouvelle fois interpeller par le texte biblique. Et celui-ci nous déplace plutôt bien, je trouve. Paul définit ici ce dont il a succinctement parlé au chapitre 3 de la même épître, lorsqu'il disait « C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, mais sont gratuitement justifiés par sa grâce en vertu de la délivrance accomplie en Jésus-Christ. » Vous l'avez peut-être entendu, Paul, au début du texte, nous dit « Nous sommes en paix avec Dieu ». Être en paix avec Dieu, c'est tout de même quelque chose. Vous avez peut-être remarqué que Paul utilise le présent. Nous sommes en paix avec Dieu. La paix est là, déjà, aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose que l'on espère dans un avenir lointain. C'est une formidable nouvelle que nous annonce Paul dès le début de ce passage. Mais bon, très bien, me direz-vous. Mais cette affirmation ne nous interroge-t-elle pas quand nous nous débattons dans nos prières, quand le silence de Dieu nous paraît si pesant? Il est indéniable que nous ne nous sentons pas toujours en paix avec Dieu, loin de là. Vous l'avez remarqué, ce verset m'interroge, et c'est pourquoi je vous propose de vous arrêter quelque temps ici. Lorsque nous lisons le chapitre en entier, nous voyons qu'à la suite directe de ce texte, Paul établit une comparaison entre Adam et Jésus. Le premier a entraîné la chute et le second a racheté l'humanité. Il est important d'avoir cet élément en tête lorsque nous lisons notre texte, puisque Paul évoque, comme il le fait dans toutes ses lettres, un temps passé où nous étions ennemis et un temps présent où nous sommes réconciliés. Ce qui interroge l'apôtre dans ce passage, dans ce chapitre-là, que nous lisons aujourd'hui, c'est le don ultime que Dieu fait en se réconciliant avec l'homme à travers la mort de Jésus, et ce que cela implique pour le chrétien quand il réfléchit, à son identité. Nous entendons dans ce passage un vocabulaire relationnel, en paix avec, réconcilié. La réconciliation. Paul nous parle de notre relation à Dieu. Il nous propose une nouvelle façon de penser celle-ci à la suite de la mort de Jésus. Et ce qu'il propose, c'est une relation avec. En la personne de Jésus-Christ et à travers l'Esprit, Dieu vient dans nos vies. Il vient avec nous affronter nos épreuves. Mais quelle est cette paix dont nous parle Paul? Celle qu'il évoque au début de sa lettre, quand il salue les Romains auxquels il va s'adresser, quand il dit « À vous la grâce et la paix de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ », comme on le retrouve dans la plupart de ses épîtres, et comme nous le disons au début de notre culte, chaque dimanche. Est-ce la paix shalom qui est évoquée dans les écrits de l'Ancien Testament? Celle-ci comporte de nombreux sens. Elle peut signifier l'absence de guerre entre deux nations, mais aussi l'intégrité, la plénitude, le caractère complet des choses, le bonheur. Elle représente le don divin ultime. Paul, évidemment de culture juive, a en tête tous ses sens. Et c'est pourquoi dans ce passage, il indique que selon lui, le salut chrétien consiste avant tout en une paix ou en une réconciliation avec Dieu. Et cette paix, elle n'est possible que par un don gratuit, premier de grâce que Dieu nous donne et la réponse que l'homme fait à ce don. Mais comment être en paix aujourd'hui avec Dieu, nous-mêmes ou les autres, quand nous sommes témoins de la violence, des contradictions et de l'instabilité. Face à ces épreuves, Paul nous assure une chose. L'amour de Dieu et la grâce qui nous est offerte de par cet amour ne faiblit pas et nous remet en route avec espérance. Cela dit, l'épreuve forme l'espérance, nous dit-il. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous ? Quand il dit « bien plus, nous mettons notre fierté dans nos détresses, sachant que la détresse produit l'endurance, la fidélité éprouvée, et une fidélité éprouvée, l'espérance. Or, l'espérance ne rend pas honteux, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. » Lorsque nous lisons ce passage, nous pouvons penser à ce que l'on dit aux personnes qui traversent des épreuves dans leurs relations. On conseille souvent de s'accrocher, de ne pas laisser tomber. Un moment de doute ne suffira pas à rompre la relation. On considère souvent qu'un couple ou une autre relation est plus solide lorsqu'il a survécu à des épreuves. Ici, lorsque Paul nous parle de détresse, de quoi nous parle-t-il exactement ? Des détresses que nous ressentons face aux autres hommes, face à Dieu ou face à nous-mêmes ? Nous avons tous rencontré et nous rencontrerons toujours des épreuves dans nos vies. Face aux autres hommes qui utilisent la violence des mots ou physiques pour imposer une vérité que seuls eux auraient. Face à nous-mêmes quand nous nous trouvons en proie à une situation qui nous semble inextricable, et face à Dieu lorsque nos cris semblent résonner dans le vide. Mais devant cela, il y a cette relation avec. Loin d'être un Dieu lointain qui ne regarderait que de temps en temps vers nous, nous avons la réalité de cette présence avec nous, qui espère et qui aime avec nous. L'espérance qu'annonce Paul, c'est ce qui nous permet de nous mettre en route vers l'avenir. Cette foi en dépit de la violence humaine, de l'instabilité, cette foi malgré tout. C'est l'amour de Dieu et son espérance envers nous. C'est Dieu qui nous la suscite et la renforce face aux épreuves. Il y a aussi ce que Paul nous dit, il est mort pour nous. Cette formule a une longue histoire. Vous le savez peut-être déjà, mais Paul n'évoque quasiment pas la vie de Jésus dans ses épîtres. Il ne parle de celui-ci qu'en tant que Jésus-Christ, en tant que Messie. Car c'est la croix et les implications de ce qui s'est passé sur la croix qui sont importantes dans les épîtres pauliniennes. Pour reprendre d'une expression populaire, il y a un avant la croix et un après. Nous pourrions parler longtemps de toute l'histoire qu'a eue dans l'Église l'idée de la mort de Jésus-Christ pour nous. Il y a eu des explications comme celle d'une rançon au diable, le diable qui aurait été payé pour que le mal s'en aille avec la mort du Christ. On voit tous le problème qu'il y a là-dedans. Il y a aussi le sacrifice pour la satisfaction de Dieu. Dieu qui serait en colère et qu'il faudrait donc la mort du Christ pour que nous soyons vus justes aux yeux de Dieu. Mais le message de Luther, ici, c'est la justification gratuite. Et face à cette idée de sacrifice expiatoire, lorsque je lis ce texte, il me vient surtout ce qui nous est dit dans l'évangile de Jean. L'amour total, ultime de Dieu, qui se manifeste dans la personne de Jésus malgré notre faiblesse. Et j'entends ici ce que nous confessons dans ce temple, nous croyons à l'amour plus fort que la mort. Paul évoque tout au long de sa lettre aux Romains différents temps. Il commence dans les premiers chapitres à parler de la situation passée, il passe au temps présent lors du chapitre 5, pour ensuite évoquer l'avenir jusqu'à la fin de sa lettre. Il s'adresse bien entendu à des interlocuteurs romains, au 1er siècle de notre ère, mais la force de son message a traversé les âges et nous parvient aujourd'hui. En tant que protestants, Nous lisons souvent cette lettre avec la figure de Luther en arrière-plan. Celui-ci a commencé sa démarche réformatrice à la suite de la lecture de cette épître, en se découvrant justifié gratuitement, non pas par ses nombreuses œuvres, mais par sa foi que Dieu suscite par sa grâce. Nous connaissons la suite de l'histoire et nous commémorons aujourd'hui cet événement. La portée de la thèse de Luther est aussi due à la dimension libératrice de l'Évangile et de la foi qu'elle entendait. L'époque était loin d'être paisible, la peur était omniprésente pour tout le monde. Entre maladies, guerres et menaces de purgatoire, il y avait de quoi se faire beaucoup de soucis. Dans ce contexte, proclamer que l'amour de Dieu et le pardon de celui-ci ne dépend plus de mes actions, mais de l'œuvre accomplie une fois pour tout par le Christ, change énormément de choses. Aujourd'hui, nous recevons cela, mais comment nous le vivons, ce message ? Lorsque Paul nous dit « Nous sommes en paix avec Dieu », que faisons-nous de ce message ? Je vous propose quelques pistes qui me sont personnelles. Être en paix avec Dieu, c'est aussi être en paix avec soi-même. C'est ne plus se sentir obligé de se justifier sans arrêt, comme nous en avons pris l'habitude dans nos vies. Nous justifions nos choix de relations, nos études, notre carrière. Nous sommes dans un monde d'auto-justification. Nous avons besoin de montrer que nous méritons ce que nous avons, que nous avons raison de faire ce que nous faisons. Le message libérateur de l'Évangile, c'est que nous n'avons plus besoin de nous justifier pour ce que nous sommes. Nous sommes justifiés en Jésus-Christ et nous sommes bel et bien libérés par cette parole. Et dans notre relation à Dieu, nous sommes libérés. Cette liberté, nous pouvons aussi la vivre en devenant un élément de contestation, en devenant en quelque sorte des lanceurs d'alerte. Car la grâce qui nous délivre, mais elle nous engage aussi à ne pas détourner les yeux de notre prochain, de celui qui se trouve au bord du chemin, des gouvernements qui choisissent d'ériger des murs, de celles et ceux qui frappent à notre porte après avoir fui des situations difficiles. Osons aller dans le monde avec ce message d'espérance que Paul nous délivre. Oui, j'en ai l'assurance, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les autorités, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les forces des hauteurs, ni des profondeurs, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous écoutons la confession de foi dite de Martin Luther. Je crois que Dieu m'a créé ainsi que toutes les autres créatures. Il m'a donné et me conserve mon corps avec ses membres, mon esprit avec ses facultés. Il me donne chaque jour libéralement la nourriture, le vêtement, la demeure et toutes les choses nécessaires à l'entretien de cette vie. Il me protège de tous les dangers, me préserve et me délivre de tout mal. Tout cela sans que j'en sois digne, par sa pure bonté et sa miséricorde paternelle. C'est ce que je crois fermement. Je crois que Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, est mon Seigneur. Il m'a racheté, moi, perdu et condamné, en me délivrant du péché, de la mort et de la puissance du malin, non point à prix d'or ou d'argent, mais par son sang, par ses souffrances et par sa mort innocente, afin que je lui appartienne pour toujours et que je vive d'une vie nouvelle comme lui-même qui, ressuscité des morts, vit et règne éternellement. C'est ce que je crois fermement. Je crois que le Saint-Esprit m'appelle par l'Évangile, m'éclaire de ses dons et me sanctifie, qu'il me maintient en l'unité de la vraie foi, dans l'Église qu'il assemble de jour en jour. C'est lui aussi qui me remet pleinement mes péchés, ainsi qu'à tous les croyants. C'est lui qui, au dernier jour, me ressuscitera avec tous les morts et me donnera la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est ce que je crois fermement. Amen. Avant l'offrande, je me permets de revenir sur la confession. Vous savez qu'aujourd'hui, donc, c'est le jour de la Réformation. C'est donc pour ça que, même si cette confession est moins libérale que ce que nous avons l'habitude d'entendre, c'est important de l'entendre aujourd'hui et de vivre avec toutes les autres églises aussi ce jour de la Réformation. Je vous invite donc à passer à l'offrande, dans la joie et en paix. Nous allons chanter pendant cette offrande le chant 238, « C'est un rempart que notre Dieu ». Et je vous invite à vous lever pour cela.
Thank you.
Louons Dieu. Père, nous te remercions de nous inviter à cette table que nous avons préparée. Nous te louons de nous accueillir à ce repas que tu as voulu pour nous. Nous te bénissons de nous rassembler avant de nous envoyer dans le monde. Aussi, avec tous tes enfants, celles et ceux que tu as appelés et, ou que tu appelleras, qui vivent ici ou qui vivent au loin, nous célébrons ton nom. Amen. Le soir venu, Jésus se mit à table avec les 12. Pendant le repas, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ayant ainsi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang. » Le sang de l'Alliance qui est répandu pour la multitude, pour le pardon des péchés. Je vous le dis désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Père, au moment de nous approcher de cette table, nous faisons mémoire des paroles et des gestes de Jésus-Christ, de sa mort et de son retour que nous attendons. Nous recevons de toi ce pain de vie destiné à la nourriture du monde. Nous recevons de toi la coupe d'alliance que tu nous offres pour la joie du monde. Tu nous rassembles et tu nous invites. Par ton esprit, renouvelle notre foi, afin que ce pain et ce vin soient les signes de la présence de ton Fils parmi nous. Fais toutes choses nouvelles en notre cœur et dans le monde. Comme Jésus l'a enseigné à ses disciples, nous te disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous sommes tous invités à cette table par Jésus-Christ. Il appelle chacun de nous à le rejoindre. Ici, nous pratiquons une table ouverte. Vous êtes tous les bienvenus à vous rejoindre, à nous rejoindre dans le cercle. Si vous ne souhaitez pas prendre le pain ou le vin, vous pouvez simplement passer la coupe ou le pain à votre voisin. Je vais donc vous inviter à former un cercle. J'invite un membre du conseil presbytéral à rester debout pour les annonces, s'il y a des annonces particulières à faire.
Alors, pas beaucoup d'annonces, puisque Vincent donc, est en vacances et c'est les vacances scolaires. Alors, je voudrais quand même rappeler, c'est la fête de l'amitié. Je crois que ça démarre le 23 pour la préparation, il me semble. D'accord. Donc c'est le 21, le mercredi 21, donc c'est la préparation, voilà, c'est ça, j'ai repris la chronologie. Le 21, donc c'est la préparation, donc à partir de 18h, n'est-ce pas Teresa, je ne me trompe pas d'horaire, à partir de 18h, on va commencer à mettre en place donc, les tables, et descendre tous les cartons des tribunes et monter ceux qui sont à la cave. Donc, préparation le mercredi à partir de 18h. Là, on a besoin de bras pour mettre tout ça en place. Et ça sera suivi d'un petit encas. Hein, c'est toujours sympa de manger après l'effort. Donc, ça sera suivi d'un petit encas où on peut rester ensemble. Le jeudi, c'est l'installation, donc pour ceux qui ont un stand. Et le vendredi, je crois à partir de 17h, il me semble, hein, quelque chose comme ça. Il me semble que c'est l'ouverture donc des stands hein, de la fête de l'amitié jusqu'à dimanche. Voilà.
Bonjour, oui, dimanche prochain, ce sera le premier dimanche du mois, indépendamment du fait que c'est moi qui présiderai le culte. Le premier dimanche du mois, on peut apporter des affaires de toilette, de la nourriture qui seront redonnées au Resto du Cœur. On fait ça uniquement le premier dimanche du mois, mais on peut le faire les autres premiers dimanches aussi. Et il y aura aussi, bien entendu, une cantate, dont j'ignore le titre. D'ailleurs, je ne peux pas le prononcer, c'est en allemand. Merci.
Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te prions pour que saints de chaque religion, de chaque église, de chaque communauté, les forces de discernement, de respect et d'accueil l'emportent sur les tentations du repli, de l'exclusion et de l'indifférence. Nous te prions pour que grandisse entre nous le désir de nous comprendre et de nous respecter. Pour ceux qui combattent pour le respect de la dignité humaine, quelle que soit leur motivation. Nous te prions pour tous ceux qui sont extérieurs à toute foi, peut-être déçus par l'attitude des croyants, pour tous ceux pour lesquels le ciel est vide, parce que rien ni personne ne vient rompre leur solitude sur la terre. Pour tous ceux qui désespèrent de toi et des hommes, parce que l'histoire se répète sans cesse avec les mêmes tragédies. Nous te prions pour que, dans le bon comme dans les mauvais jours, nous écoutions les pas du Christ invisible qui chemine avec nous, pour que ton esprit donne sens à nos paroles et force à nos gestes tout au long de notre marche sur la terre. Amen. Dieu est le pèlerin embusqué dans notre aventure humaine. Il est de tous nos voyages. Il est sur nos grandes routes et sur nos chemins de traverse, sur nos terres ensoleillées et dans nos bas-fonds obscurs. Il est présent à toutes nos aurores et à tous nos crépuscules. Il reste avec nous quand il fait jour et quand il fait nuit. Il nous bénit et nous garde et nous donne sa paix qui nous accompagnera tous les jours de notre vie. Amen. Bon dimanche à tous et bonne semaine à tous.